Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série qui est concernant Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous en sommes à l'étude numéro 22. Le titre pour aujourd'hui sera « La toute-suffisance de Dieu ». La toute-suffisance de Dieu. La lettre de Paul aux Romains, et quel que soit l'angle sous lequel on la considère, c'est le point culminant de l'Écriture sainte. Luther disait d'elle qu'elle était le plus clair des évangiles, et Calvin écrivait « Quiconque est parvenu à la vraie compréhension de cette épître a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture sainte. » Tyndall, dans sa merveilleuse préface à la lettre aux Romains, reprend ces deux idées en définissant cette épître comme l'essentiel et le meilleur du Nouveau Testament, une lumière et un chemin pour pénétrer l'Écriture sainte toute entière. Donc, dans la Sainte Bible, tous les chemins mènent carrément, qu'on le veuille ou pas, à l'Épître aux Romains, et c'est elle qui permet d'avoir la meilleure des vues sur toutes les perspectives qu'offre la Bible lorsque son message pénètre le cœur d'un homme, et nul ne peut dire ce qui va en résulter. Que cherchez-vous dans la Sainte Bible? L'homme sage s'intéresse à bien des sujets, et il les trouve tous traités excellemment dans l'Épître aux Romains. Êtes-vous en quête de doctrine, c'est-à-dire de vérité concernant Dieu et enseignée par Dieu? Si oui, vous vous apercevrez que l'Épître aux Romains vous offre un éventail de tous les thèmes principaux de la Bible. Dieu, l'homme, le péché, la loi, le jugement, la foi, les œuvres, la grâce, la création, la rédemption, la justification, la sanctification, le plan du salut, la prédestination, la réprobation, la personne et l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, l'espérance chrétienne, la nature de l'Église, la place des Juifs et des non-Juifs dans le dessein de Dieu, ainsi que la philosophie de l'histoire du monde et de l'Église, la signification de l'enseignement de l'Ancien Testament, la signification du baptême et les principes de piété personnelle et d'éthique, ainsi que les devoirs du chrétien dans la société, etc. Mais l'homme sage, il voit aussi dans la Sainte Bible un livre de vie, oui, un livre qui lui montre, à l'aide d'exemples et d'explications, ce que la signifie concrètement pour l'homme que de servir ou de ne pas servir Dieu, de le trouver ou de l'abandonner. Et que a donc à lui proposer dans ce domaine l'Épître aux Romains? Une large vue d'ensemble de ce qu'est une vie vécue dans le péché. Oui, une vie vécue dans la grâce et une analyse la plus approfondie que la Bible ait à lui proposer de ce que est le chemin de la foi. Sur le péché, vous pouvez noter les chapitres 1 à 3, ainsi que les chapitres 5, 7 et 9. Tout cela, donc, sur le péché. Sur la grâce, notez les chapitres 3 à 15. Sur la foi, notez les chapitres 4, 10 et 14. Il est donc une autre façon de lire la Sainte Bible que recommandent volontiers les théologiens modernes, c'est de la lire comme le livre de l'Église, le livre qui fait connaître la conception qu'a d'elle-même la communauté des croyants et la foi qu'elle a reçue. À cet égard, l'Épître aux Romains, parce qu'elle constitue l'énoncé classique de l'Évangile dont vit l'Église, constitue également la définition classique de ce que est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est la véritable postérité d'Abraham le croyant, formée tant de juifs que de non-juifs, est choisi par Dieu, justifié par la foi et délivré du péché afin de mener une vie nouvelle caractérisée par la droiture personnelle et l'assistance mutuelle. L'Église est la famille d'un Père céleste qui est rempli d'amour, qui est une famille qui vit dans l'espoir d'hériter un jour de toutes les possessions de son Père. C'est donc la communauté de la résurrection au sein de laquelle se manifeste déjà toute la puissance de la mort et de la vie céleste actuelle de Christ. Et c'est l'Épître aux Romains qui nous donne l'exposé le plus complet de ces choses. L'homme sage lit encore la Sainte Bible comme une lettre que Dieu adresse personnellement à chacun de ses enfants spirituels et qui s'adresse donc tout autant à lui qu'à quiconque. Lisez l'Épître aux Romains dans cette optique-là, et vous vous apercevrez qu'elle possède un don tout spécial pour mettre vraiment le doigt sur ce qui fait tellement partie intégrante de vous-même que vous n'y accordez jamais une pensée en temps normal. Et vos habitudes et attitudes pécheresse, on peut bien le dire, vos dispositions naturelles telles que l'hypocrisie, à l'auto-justification et à l'auto-satisfaction, votre incrédulité perpétuelle, votre légèreté morale, la superficialité de votre repentir, parce que nous sommes souvent pas très motivé et ni très convaincu, votre tiédeur, votre mondanité, votre nature timorée, votre découragement, votre vanité spirituelle et votre insensibilité. Mais vous, vous apercevrez aussi que cette lettre étonnante possède aussi un don tout spécial pour faire naître la joie, l'assurance, l'audace, la liberté d'esprit et l'ardeur que Dieu demande et donne tout à la fois à ceux qu'il aime. On a dit de Jonathan Edwards qu'il avait une doctrine très pratique et une pratique très doctrinale. on peut aussi le dire, et au suprême degré, de l'Épître aux Romains. On ne saurait trop la lire ou l'étudier, écrivait Tyndall, car plus on l'étudie, plus elle apparaît facile à comprendre et plus on la sonde, plus on y découvre de merveilles, tant elle est recèle, c'est-à-dire tellement qu'elle recèle de nombreux trésors spirituels. Et c'est donc pourquoi nous devons tous, sans exception, nous appliquer assidûment à son étude et la repasser jour et nuit dans notre esprit jusqu'à ce que nous la connaissions parfaitement. Mais les chrétiens ne sont pas tous capables d'apprécier l'extraordinaire beauté de l'Épître aux Romains et il y a pour cela une belle raison. Si quelqu'un se faisait déposer sur le sommet de l'Everest par un hélicoptère, à supposer que la chose soit possible, il ne ressentirait pas du tout les mêmes émotions qu'éprouveraient certains alpinistes qui arrivent eux aussi au même endroit, mais après avoir escaladé la montagne. De même, l'impact que produira sur vous l'Épître aux Romains dépendra évidemment de ce qui aura précédé sa lecture. En effet, plus vous vous serez donné de peine à étudier le reste de la Sainte Bible, pour autant que vous veuillez bien l'ouvrir, plus vous serez au fait des problèmes intellectuels et moraux de la vie chrétienne, et plus vous serez conscient du caractère fragile et précaire de votre fidélité chrétienne, et plus l'Épître aux Romains prendra de valeur à vos yeux. Jean Chrysostome avait coutume de se la faire lire à haute voix, une fois par semaine. Et vous et moi pourrions même faire pire, évidemment. Donc, si l'Épître aux Romains, si elle est le point culminant de la Sainte Bible, eh bien le chapitre 8 est le point culminant de l'Épître. Le commentateur puritain Edward Elton disait de ce chapitre « Il est comparable à une vallée où coule le lait et le miel. Il est plein de douceur céleste et de réconfort pour l'âme. Tout ce que nous pourrions imaginer en fait de réconfort n'est qu'illusion tant que nous n'aurons pas une juste notion de l'amour que Dieu nous a manifesté dans le Christ Jésus, amour qu'il a versé et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais une fois cette notion acquise, cet amour remplit nos cœurs d'une joie indicible et glorieuse, et nous rend plus que vainqueurs. Et où pourrions-nous, chers amis, trouver exposé de façon plus claire et plus précise les raisons de ce réconfort que dans ce fameux chapitre de Romains 8. Le mot réconfort est bien sûr à prendre ici au sens ancien et fort du terme, qui signifie ce qui donne courage et qui fortifie, plutôt qu'au sens actuel du terme, qui signifie ce qui tranquillise et qui détend. Or, la recherche du réconfort au sens moderne du terme est une recherche du confort, une recherche de l'irréel motivée par la sensiblerie et la religion moderne du type « je vais à l'église pour me réconforter, ça peut pas me faire du mal ». Cela, évidemment, n'a rien à voir avec le véritable christianisme. Le principe qui était valable pour la conquête de l'Everest s'applique à nouveau ici. Ce n'est pas en étudiant le seul chapitre 8 de l'Épître aux Romains que vous en pénétrerez le secret. Pour accéder au 8e chapitre, il faut d'abord passer par les 7 premiers et l'impact qu'aura sur vous le 8e chapitre, croyez-moi, sera fonction de ce que vous aura coûté l'acceptation de l'enseignement des 7 chapitres précédents. Car ce n'est que si vous avez accepté de reconnaître que vous êtes un pécheur perdu et sans espérance, selon les chapitres 1 à 3, ce n'est que si, comme Abraham, vous avez accepté de croire en une promesse divine qui paraît trop belle pour être vraie, en l'occurrence la promesse de recevoir de Dieu un accueil favorable parce que Jésus-Christ, votre chef de file de l'Alliance, est mort et ressuscité, chapitre 4 et 5. Ce n'est que si, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, vous vous êtes engagé à vivre dans une sainteté parfaite pour découvrir ensuite qu'il y avait encore en vous des luttes entre la chair et l'esprit, et pour être donc obligé de vivre dans un perpétuel tiraillement, incapable à la fois de faire vraiment le bien que vous voulez faire et d'éviter totalement de faire le mal auquel vous avez renoncé, chapitre 6 et 7. Ce n'est que si, enfin, vous êtes passé par la souffrance et l'épreuve, telles que la maladie, les contraintes, l'accident, les chocs, mauvais traitements, déceptions, voir le chapitre 8 et les versets 18 au verset 23, je dis bien du chapitre 8, et vous pouvez encore noter les versets 35 à 39. Ce n'est donc que si vous êtes passé par toutes ces étapes, que le chapitre 8 de l'Épître aux Romains vous livrera toutes ses richesses et vous révélera toute sa puissance. Dans ce chapitre 8, saint Paul reprend, en le développant considérablement, le thème qu'il avait déjà abordé dans les versets 1 à 11 du chapitre 5. D'ordinaire, l'apôtre n'est pas homme à se répéter. Alors pourquoi le fait-il ici? Oui, pourquoi a-t-il écrit ce chapitre 8? Eh bien, notre réponse sera brève et pas aussi sotte qu'elle en a l'air, parce qu'il venait tout simplement d'écrire le chapitre 7. Dans ce chapitre 7 au verset 7, il avait soulevé la question suivante, la loi est-elle un péché? Il y avait répondu en disant non, mais la loi est une source de péché en ce sens qu'elle excite. Elle excite l'homme à faire ce qu'elle interdit et l'incite ainsi à la désobéissance, car plus il s'applique à l'observer, plus il constate qu'il la transgresse. Pour démontrer la véracité de ce qu'il dit avec un maximum de brièveté et d'éloquence, l'apôtre Paul évoque sa propre expérience. Il vient de dire comment, avant d'être chrétien, le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains 7, verset 11. Et il continue au verset 14 à 25 en examinant ce qui se passe maintenant qu'il est devenu chrétien et apôtre. Il doit reconnaître « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Verset 18, verset 22 et le verset 23. Donc, en évoquant cette situation, l'apôtre ne peut s'empêcher de s'écrier « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24. Cette question, elle est purement rhétorique, car l'apôtre Paul savait que grâce à Christ, il serait à coup sûr, un jour, totalement délivré du péché lors de la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, verset 23. Mais comme il l'explique lui-même, il lui fallait, pour le moment au moins, faire l'amère expérience de son incapacité à atteindre cette perfection désirée, et cela parce que la loi qui exigeait la perfection, cette loi à laquelle il prenait plaisir en tant qu'être régénéré, verset 22, était impuissante à la créer. Ainsi donc, moi-même, mon être intérieur, mon moi profond, je suis par l'entendement esclave de la loi, le commandement de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi qui est le principe du péché. Romains 7, verset 25. L'apôtre Paul a donc réussi à mener à bien sa démonstration et il manque là, il va donc marquer une petite pause. Oui, qu'a-t-il réussi à nous démontrer? Eh bien, il a partagé avec ses lecteurs ce que la loi lui dit à son sujet, leur rappelant par là même ce que la loi leur dit à leur sujet. La loi ne parle ni de privilèges, ni de réussite. Elle ne parle que d'échecs et de culpabilité. Pour les chrétiens qui savent à quel point Dieu haït le péché et qui sont de plus dotés d'une vive sensibilité, cela est une expérience bien pénible et bien déprimante que d'être passé au crible de la loi. Le seul fait d'en parler a assombri la joie de l'apôtre Paul, et parce qu'il est un bon pasteur et qu'il pense toujours aux répercussions qu'auront ses paroles, il sait qu'il va attrister ses lecteurs. Et dans notre cas, nos auditeurs. Mais il ne croit pas bon de laisser les chrétiens de Rome face à l'aspect déprimant de leur expérience, pensant qu'ils sont de nouveau sous la loi. Ils voient au contraire la nécessité de leur rappeler, sans plus tarder, que ce qui importe désormais, ce n'est plus ce que la loi dit d'eux, mais ce que l'Évangile proclame. Adoptant donc une démarche à la fois évangélique et pastorale, évangélique parce que l'Évangile doit avoir le dernier mot et pastoral parce que les pasteurs doivent toujours contribuer à votre joie, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24, l'apôtre Paul reprend maintenant le thème de l'assurance chrétienne et le développe aussi clairement que possible du début. Plus de condamnation à la fin et plus de séparation. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains ne soustrait pas les chrétiens au chapitre 7 en ce sens qu'il leur offrirait la possibilité d'être délivrés maintenant déjà de toute imperfection possible ou plutôt passible de la loi. Je répète, le chapitre 8 de la lettre aux Romains ne soustrait pas du tout les chrétiens au chapitre 7 en le sens qu'il leur offrirait, par exemple, la possibilité d'être délivrés déjà maintenant de toute imperfection passible de la loi. Alors, l'apôtre Paul soustrait totalement ses lecteurs au chapitre 7, et cela en ce sens qu'il dirige l'attention des chrétiens sur les promesses que Dieu leur a faites dans l'Évangile et qu'il leur apprend à se réjouir en la grâce souveraine qui couvre le péché et à découvrir dans cette joie une antidote au désespoir de se savoir jugé, de se savoir jugé par la loi. Qu'y a-t-il dans ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains? Le chapitre est composé de deux parties d'inégale longueur. Les 30 premiers versets proclament la toute suffisance de la grâce de Dieu, qui est capable de dominer toutes les situations, si désespérées soient-elles, telles que la culpabilité et la puissance du péché, les versets 1 à 9, la réalité de la mort, les versets 6 à 13, la terreur d'avoir à affronter la sainteté de Dieu, verset 15, la défaillance et le désespoir face à la souffrance, les versets 17 à 25, l'ignorance paralysante dans la prière que nous connaissons tellement, les versets 26 et 27, le sentiment d'absurdité et d'inutilité de la vie, les versets 28 à 30. Donc, l'apôtre Paul proclame cette toute suffisance en vertu de quatre dons que Dieu a fait à tous ceux qui, par la foi, sont dans le Christ Jésus. Le premier de ces dons est la justice. Plus de condamnation. Ça, c'est une belle chose. Je répète, le premier de ces dons, c'est la justice qui nous permet d'être tranquille dans notre cœur dans le sens qu'il n'y a plus de condamnation. Verset 1. Le second, c'est le don de l'Esprit Saint, les versets 4 à 27. Le troisième, c'est la filiation, l'adoption dans la famille divine, dont le Seigneur Jésus est le premier-né, les versets 14 à 17 et le verset 29. Le quatrième don est la sécurité dès maintenant et à jamais, les versets 28 à 30. Ces dons composites sont un statut, elles sont une dynamique, une identité et un sauf-conduit. Ils sont plus que suffisants pour soutenir un chrétien dans toutes ses difficultés, qu'elles puissent être. Dans le verset 31 à 39, l'apôtre Paul interpelle ses lecteurs en leur demandant de réagir à ce qu'il vient de leur dire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Verset 31. Il poursuit en nous livrant sa réaction personnelle qui devrait être aussi la nôtre, et au fur et à mesure qu'il développe sa pensée, le thème de départ se transforme insensiblement et de la toute suffisance de la grâce de Dieu, on en arrive maintenant à la toute suffisance du Dieu de grâce. Le centre d'intérêt se déplace du don vers le donateur, de la libération du mal au libérateur qui est Dieu, qui est pour chaque chrétien ce qu'il a promis d'être pour Abraham, c'est-à-dire ton bouclier et ta très grande récompense. Genèse 15, verset 1. Ça vaut la peine de répéter cela. Donc, il poursuit en nous livrant sa réaction personnelle. Cette réaction devrait être aussi, et elle pourrait être aussi la nôtre, elle pourrait être la tienne. Et au fur et à mesure que notre apôtre développe sa pensée, le thème de départ se transforme insensiblement et de la toute suffisance de la grâce de Dieu, on en arrive à la toute suffisance du Dieu de grâce. Donc, nous voyons que le centre d'intérêt se déplace du don vers le donateur, qui est Dieu, de la libération du mal au libérateur, qui est Dieu, qui est pour chaque chrétien ce qu'il a promis d'être pour Abraham, c'est-à-dire il est notre bouclier et il est notre très grande récompense. Genèse 15, verset 1. Alors si les versets 1 à 30 disent « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire », les versets 31 à 39 disent « Eux, quel autre ai-je donc au ciel ?» que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir que en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 73, versets 24 à 26. Et c'est cette dernière réaction que nous allons maintenant analyser. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Il s'agit plutôt du « nous » d'exhortation, le nous des prédications chrétiennes qui englobe moi et vous et tous les croyants avec nous. Oui, que dirons-nous doit en fait s'interpréter comme « moi je sais ce que je dirai, mais le direz-vous aussi ?» En demandant à ses lecteurs de parler, l'apôtre Paul les oblige d'abord à réfléchir. Il les encourage à chercher avec lui quel effet ces choses produisent dans leur vie présente, en d'autres termes, ce qu'ils désirent, c'est les voir mettre ces choses en application dans leur vie, bien qu'ils ne connaissent pas personnellement les Romains, pas plus qu'ils ne nous a connus, nous qui le lisons au XXe siècle, au XXIe siècle plutôt, ils savent que parce qu'ils sont chrétiens, ils présentent deux signes caractéristiques qui sont propres d'ailleurs à tous les vrais chrétiens de tous les pays et de tous les temps. Ils se sont premièrement engagés à vivre une vie de justice parfaite. Les versets 31 à 39 du chapitre 8 suppose en effet que les lecteurs de la lettre se sont offerts à Dieu comme esclaves de la justice. Romains 6, verset 13 et le verset 18. Et qu'ils cherchent avant tout à faire sa volonté. Ils sont donc deuxièmement exposés à des difficultés de toute nature. Les versets 31 à 39 du chapitre 8 considèrent les difficultés matérielles et l'hostilité des hommes comme le lot commun de tous les chrétiens. C'est nous, oui c'est nous et non pas l'apôtre Paul seulement qui affrontons. Nous affrontons la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, symbole d'extrême privation, le péril et même l'épée. Verset 35. Comme l'apôtre Paul l'avait enseigné à ceux qui s'était converti lors de son premier voyage missionnaire, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Il est donc possible d'esquiver pour un temps, mais pas pour toujours, quelques difficultés, mais pas toutes, en louvoyant spirituellement, mais l'apôtre Paul sait que ceux qui sont résolus auront à nager à contre-courant tout au long du voyage et seront sans cesse conscients de la force du courant. Ce sont donc ces lecteurs que l'apôtre Paul dépeint ici, et nous, nous reconnaissons tous dans cette galerie de tableaux, nous nous reconnaissons, je m'y reconnais, et voici un chrétien tourmenté par le souvenir d'une chute, et en voici un autre qui a perdu, à cause de sa fidélité au Christ, un ami ou un travail. Voilà des parents chrétiens très déçus par leur enfant, puis une chrétienne qui traverse une période difficile. Ici, c'est un chrétien qui se sent rejeté par sa famille ou par ses camarades de travail à cause de sa foi. Et là, c'en est un autre accablé par la mort d'un proche qui lui semble-t-il n'aurait pas dû mourir, ou par la vie douloureuse d'un parent devenu sénile, comme la Alzheimer, ou d'un enfant mongolien qui, lui semble-t-il, devrait mourir, et un autre encore qui se dit que Dieu ne prend certainement plus du tout soin de lui ou d'elle, tant sa vie est difficile, car même ses collègues pasteurs la méprisent, rient d'elle derrière son dos, et d'autres choses encore plus terribles. Mais ce sont précisément ces gens-là, des gens comme vous et moi, que l'apôtre Paul somme de répondre. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Réfléchissez, réfléchissez. Oui, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais que veut-il donc que nous fassions? Il veut que nous prenions possession des biens qui nous appartiennent et qui ne sont pas, comme on le pense parfois, des techniques ou des moyens d'accès à la sainteté, mais la paix, l'espérance et la joie dans l'amour de Dieu, tous biens qui appartiennent aux chrétiens par droit de naissance. L'apôtre Paul, il sait que lorsque, sous la pression des événements, nous en arrivons à penser de façon émotionnelle, c'est-à-dire à prendre nos réactions pour des manifestations émanant de la raison, c'est bien nous qui sommes enlevés. C'est pourquoi il nous demande de réagir, et pas seulement de pleurer dans un coin, non pas en fonction de ces choses-là, mais en fonction de ces choses-ci, c'est-à-dire celles dont il a parlé au cours des 30 premiers versets de notre chapitre. Souvenez-vous de tout ce que l'Évangile vous a appris de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Et considérez la vie à la lumière de cette connaissance. Réfléchissez et ne vous laissez pas guider uniquement par vos sentiments. Arrachez-vous à la tristesse dans laquelle vos sentiments vous ont plongé. Démasquez l'incrédulité qu'ils ont entretenu, ressaisissez-vous, exhortez-vous, forcez-vous à détacher vos regards de vos problèmes pour les lever vers le Dieu de l'Évangile, que votre façon de penser soit nourrie de l'Évangile et pas seulement de vos sentiments. Alors c'est ce que affirme l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit qui habite en nous et dont le ministère consiste à rendre témoignage à notre esprit que nous sommes les fils et les héritiers, selon Romains, verset 16, Romains 8, verset 16 et 17. Cela nous conduira à faire nôtre la conclusion finale. Elle est, on peut dire, triomphante de l'apôtre Paul quand il nous dit « Voyez-vous, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de qui ? Nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, Romains 8, verset 38. Car Paul le sait, c'est dans cette réponse que réside le secret de la vie des plus que vainqueurs. Et cette vie qui est une victoire sur le monde et qui est pour le chrétien les prémices de la vie céleste. Si je me mets à pleurer, à me plaindre de moi-même, du matin au soir, ça ne réglera aucun problème. Ça n'arrivera surtout jamais à une victoire quelconque. Impossible. Pour avoir la victoire, nous devons devenir vainqueurs. Et je ne serai pas vainqueur si je me lamente sur moi-même et de tout ce qui ne va pas. Voyez-vous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La réponse que l'apôtre Paul nous propose comme modèle, elle est faite de quatre réflexions qui débouchent chacune sur une question, après tout les questions qui nous obligent à réfléchir. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, c'est-à-dire avec Christ? Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le mot « clé » qui résume les trois premières réflexions, c'est le mot « pour », en faveur de, en faveur de Dieu, et pour nous, car il a livré son propre Fils pour nous tous, également pour toi, ma chère sœur. Et Christ intercède pour nous. La dernière réflexion apparaît comme une conséquence des trois premières. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Examinons maintenant, l'un après l'autre, chacun, oui, examinons chacun de ces éléments de réponse. Chers amis, nous examinerons tout cela très sérieusement, croyez-moi, dans notre prochaine étude, car ce serait beaucoup trop long et pénible pour ceux qui écoutent, car c'est du concentré, ce n'est pas du petit lait écrémé. Chers amis, comme vous le savez, en lisant la Sainte Bible, en méditant, en priant, il nous arrive à comprendre certaines choses qui nous viennent comme ça, et le Seigneur nous permet de vous les donner, de vous les transmettre, et nous ferons cela avant de terminer par la prière. Le Seigneur, il nous fait comprendre que nous ne devrions pas nous laisser émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les discours, mais dans les œuvres. Soyez attentifs à ces paroles qui enflamment le cœur, éclairent, attendrissent l'âme et la remplissent de consolation. Ne lisez jamais pour paraître plus savant ou pour paraître plus sage. Après avoir beaucoup lu et beaucoup appris, il en faut toujours revenir à l'unique principe de toute chose. C'est le Seigneur qui donne à l'homme, ce qui veut dire à la femme, la science et qui éclaire l'intelligence des petits-enfants plus que l'homme ne le pourrait par aucun enseignement. Celui à qui il parle est bientôt instruit et fait de grands progrès dans la vie de l'esprit. Malheur à ceux qui interroge les hommes sur toutes sortes de questions curieuses et qui s'inquiète peu d'apprendre à servir le Seigneur. Viendra le jour où Jésus-Christ, le maître des maîtres, oui, le Seigneur des anges, apparaîtra pour demander compte à chacun de ce qu'il sait, c'est-à-dire pour examiner les consciences. Et alors, la lampe divine à la main, il scrutera l'âme de tout un chacun et les secrets des ténèbres seront dévoilés et toute langue se taira. C'est le Seigneur qui, en ce moment, élève l'âme humble et la fait pénétrer plus avant dans la vérité éternelle que ne le pourrait celui qui aurait étudié 10 années dans les écoles supérieures. Le Seigneur vous enseigne sans bruit de parole, sans embarras d'opinion, sans faste, sans argument et sans dispute. Apprends à mépriser les liens de la terre et les biens de cette dernière, à dédaigner ce qui passe, à rechercher et à goûter ce qui est éternel et à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre au Seigneur tout en espérance, à ne désirer rien hors de lui et à l'aimer ardemment par-dessus tout. Quelqu'un et quelques-uns, en l'aimant ainsi, ont appris des choses toutes divines, dont ils parlaient d'une manière admirable. Oh oui, et ils ont fait plus de progrès en quittant tout que par une profonde étude. Mais le Seigneur dit aux uns des choses plus générales et aux autres de plus particulières. Il apparaît à quelques-uns doucement, voilés sous des ombres et des figures. Et il révèle à d'autres ses mystères au milieu d'une vive splendeur. Les livres parlent à tous le même langage, mais il ne produit pas sur tous les mêmes impressions. Parce que lui seul, il enseigne la vérité au-dedans, il scrute les cœurs, il pénètre les pensées, il excite à agir et il distribue ses dons à chacun selon qu'il lui plaît et ce n'est pas à nous de les exiger. Nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Seigneur, tu as donné ton Fils au monde, afin que quiconque croirait en lui ne périt point, mais qu'il eût la vie éternelle. Il est monté comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il a été le méprisé et le dernier des hommes, un homme de douleur, et qui sait ce que c'est que la langueur. Il s'est chargé de nos langueurs, et il a porté nos douleurs. Il a été navré pour nos forfaits et frappé pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et nous avons la guérison par sa meurtrissure. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés pour suivre chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. On le pousse, on l'accable, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a été mené à la tuerie comme un agneau, comme une brebis muette devant celui qui la tond. Même il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par la force de l'angoisse et de la condamnation. Il a été retranché de la terre des vivants. Oui, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants. L'Éternel l'a voulu frapper, mais après avoir mis son âme en oblation pour le péché, il en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité, et il intercédera pour les pécheurs. Il est le sauveur et le rédempteur de nos âmes. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Éternel t'a pris pour évangéliser aux débonnaires. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Nous, nous réjouirons en l'Éternel et notre âme daignera, oh oui, elle s'égayera en notre Dieu. Car ainsi que la terre pousse son germe, ainsi le Seigneur éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Qu'à lui soit donc la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études. Et Dieu voulant, demain, pour la suite de cette série, car elle n'est pas encore terminée, et après il viendra une très grande série, tout aussi importante que celle que nous venons d'avoir ensemble. À bientôt, au revoir mes très chers amis.